Vous écoutez
RMC.
RMC.
On a plusieurs flèches à notre arc, comme on dit.
C'est dommage, c'est une belle occasion de rater, mais on va essayer de s'en procurer d'autres cet après-midi.
On a des hommes de caractère, donc on va tout faire pour relever le tir.
Jusqu'à minuit,
c'est l'afterfoot Gilbert Bribois.
Et oui, l'after continue jusqu'à minuit avec Daniel Riolo qui est là. Salut Daniel.
Bonsoir les amis.
Et avec Kevin Diaz. Salut Kevin.
Salut à tous.
Au programme jusqu'à minuit, déjà on a de la clé ce soir. Finale du 110 mètres haies, notamment avec trois Français tout à l'heure, je vous tiendrai informé. Mais également beaucoup de foot, bien sûr. Avec Kevin qui veut absolument nous convaincre de regarder la série consacrée à Arsenal. Actuellement sur Prime Vidéo.
Il faut regarder ce genre de format, c'est...
On va en parler avec Julien Laurence.
C'est pas toujours bien.
Ah non, celui de la Juve était naze.
Voilà.
Celui de la Juve, j'ai tenu un quart d'heure.
Ouais, mais quand on tombe, parce qu'évidemment, on sait que c'est contrôlé tout ça, mais quand on tombe sur la paire.
La Juve, c'était au-delà du contrôle. Hein.
Ça permet d'apprendre des choses et ça peut être très très bien. Ouais. Il a raison.
La Juve, c'était l'impression d'une pub géante en fait.
Ouais.
Alors, ce sera l'occasion également avec Julien de revenir, comme on en a parlé un peu tout à l'heure, mais sur l'éventuelle vente de Manchester United. On parle de 6 milliards d'euros. Comme ça, au bas mot, pour le club anglais. Le mercato, bien sûr, sera au programme. Et tout à l'heure, à 23h, on parlera de l'OM. Alors, tout à l'heure, Walid l'a fait déjà, mais il faut qu'on revienne avec Daniel sur l'été de, de Marseille.
Walid l'a fait, c'est difficile quand même de passer derrière. Moi, je pensais que ce soir, il se consacrait, il a dit je suis un focus Toko Ekambi.
Non, ah bah non, il pouvait pas.
Ah oui, je pensais.
Non, mais il faut d'abord qu'il revoie le match. Ah. Pour l'instant, il n'ose pas.
Aussi, il a dit ouais, je fais un focus Toko Ekambi, il m'avait dit ce matin.
Tu sais que j'ai des grands amis algériens, que pour eux, jusqu'au bout, ils allaient faire la Coupe du Monde. Quoi. Ils allaient avoir un truc avec l'Équateur ou le match.
Oui.
Ils y croyaient jusqu'au bout.
Oui, et puis l'appel devant la FIFA.
Voilà, l'appel, bref.
Bref, on remet le couteau dans la plaie. Hein.
Non, on remonte pas.
Non, c'est vrai.
Faut pas. En plus, Walid, il pourrait écouter, on sait jamais.
Donc l'OM tout à l'heure. Oui, non, parce qu'il y a pas mal de choses à analyser avec du recul sur cet été. L'arrivée de Tudor, la gestion de Payet, Longoria finalement, est-ce qu'il n'a pas fait des erreurs?
C'est difficile de faire un été plus mouvementé pour l'OM quand même.
Exactement.
Club en France d'ailleurs. La continuité, la stabilité. On dit toujours que c'est une vertu. Visiblement.
Ouais, mais
pas trop dans notre championnat.
Finalement, on peut dire que la Ligue 1 est en train de changer de statut. C'est plus une grande compétition où les joueurs restent. C'est une compétition tremplin, comme connaît le Portugal, comme connaissent pas mal de pays.
En ce sens-là, tu veux dire?
C'est-à-dire que voilà, dès que t'as un bon joueur, c'est un joueur qui a été prêté parce que t'avais pas les moyens de l'avoir, ou c'est un ancien qui est sur la fin, ou c'est un jeune.
Ce que tu dis est vrai, Kevin, mais c'est un paradoxe parce que c'est pas la première impression qu'on peut avoir. On a plutôt l'impression depuis un an ou deux ans, d'abord parce que tout simplement d'un point de vue du jeu, ça s'est amélioré, parce que c'est un peu plus compétitif derrière le PSG, même si le PSG était champion cette année, mais pas celle d'avant. Donc on a le sentiment qu'on assiste à une compétition qui est beaucoup plus intéressante, et c'est pas une impression,
c'est
une réalité, et que derrière cet intérêt-là, on n'a pas envie d'entendre ce que tu viens de dire, mais qui est néanmoins une vérité.
Sinon, Renato Tchouaméni, il part pas au Real.
Exactement. Allez, on va dire que ce genre de joueur-là, c'est toujours parti.
Mais il aurait pu aller au PSG.
Mais tu n'as pas autant de paris, tu n'as pas autant de bouleversements dans les effectifs, de joueurs qui arrivent. Ah, tiens, lui, il arrive, mais c'est qui déjà? Il jouait où? Toutes ces interrogations, j'en parlais hier soir. Il y a beaucoup de choses d'inconnus, beaucoup de points d'interrogation. Et ça, effectivement, tu as raison, c'est plutôt la marque de championnats qui ne sont pas forts, alors que nous, on croit, parce qu'il y a eu CVC, parce que le championnat est plus intéressant, que c'est un championnat fort. Et puis après, tu prends une claque dans la gueule quand Monaco se fait taper par le PSV.
Je pense qu'il y a déjà, il y a des mauvaises habitudes. C'est-à-dire que chez nous, il y a des joueurs qui ont des salaires beaucoup trop conséquents par rapport à leur statut. Et c'est pour ça que je répondrai à Walid quand il dit que Longoria ne vend pas, certes, mais il y a des joueurs qui sont invendables de par leur salaire. Strootman. C'est-à-dire que tu as eu beaucoup d'argent quand le Champions Project a été lancé et quand Hero a été mis en fonction. Mais si tu envoies, je crois que c'était 30 millions sur Strootman avec 500 000 euros par mois, c'est sûr que derrière, ça va être difficile de se séparer de ce genre de joueur-là. Donc il y a un moment, t'es prisonnier. prisonnier de tes mauvais choix et tu es petit à petit en train de devenir par contre un championnat qui s'ouvre aux nouvelles technologies, comme disait Thibaut juste avant, qui s'ouvre à pas mal de nouvelles choses, le recrutement, aller chercher justement des joueurs qu'on connaît pas, mais ça c'est pas mal au final, parce qu'on s'est toujours plaint qu'on prenait des joueurs qui étaient pas terribles et tout ça, mais quand tu vas chercher en Roumanie le petit Ilié, quand tu vas chercher aux Pays-Bas pour Toulouse ou ailleurs pour d'autres, bah forcément c'est des joueurs qui sont un peu inconnus, mais c'est pas grave parce que ces joueurs-là tu les attires avec un bas salaire, mais pour faire la bascule, bah ce sera sûrement une bascule qui se fera à l'étranger, prix du transfert, prix du salaire, etc.
Alors les gars, j'aimerais également qu'on dise un mot, on le fera sans doute avant 23h, du transfert de Tanguy Kouassi, parce que c'est à décrypter quand même. Ce jeune joueur formé à Paris, rappelez-vous, qui est parti à l'époque, on disait ouais, encore une perte pour le PSG qui ne sait pas garder ses jeunes, parti au Bayern, où finalement il a très peu joué. Là, il va à Séville.
On peut même dire pas joué du tout.
Alors on verra tout à l'heure, hein, on en débattra.
Qu'il joue, il y est allé parce qu'il avait plus de contrat et ça a permis aux agents entourage de se gaver un peu en prenant. Il est allé là-bas. Là-bas, il devait apprendre plus que jouer. Parce qu'il
bah oui, mais finalement, il va se retrouver titulaire à Séville. Donc, au final, est-ce que c'est une si mauvaise opération que ça pour lui?
Ah, pour lui, pour lui, assurément, non.
Sa carrière. C'est comme si tu as fait une espèce de post-formation. Bon, on en reparlera tout à l'heure. C'est
exactement ça.
Sa carrière.
Et en plus, t'as grandi parce que t'as acquis de la maturité en vivant à l'étranger.
Bien sûr. Avoir fréquenté un club comme le Bayern, c'est. Non, pour lui, non. Pour lui, c'est pas.
Voilà, vous êtes sorti de pré-débat. On en rentrera dans les détails tout à l'heure. Mais pour l'instant, Julien Laurence nous rejoint. Julien, bonsoir.
Salut Gilbert, salut à tous.
Ah, salut Julien.
Julien était déjà là tout à l'heure.
C'était bien l'île de Ré.
Ah, bah, forcément.
Superbe. Forcément, c'est génial. D'ailleurs, Daniel, j'ai rencontré plein de grands fans de l'After d'RMC qui t'invitent hein, quand tu veux.
Je croyais qu'il avait interdiction d'y aller.
C'est Monsieur Laurence Père, senior, qui veut pas. Mais en plus, je comprends pas pourquoi. Je me souviens, qu'est-ce que j'ai dit de mal sur l'île de Ré?
Non, au contraire, t'étais plus sympa en fin de saison dernière.
J'ai trouvé ça très bien. Après, c'est un monde un peu particulier.
T'as des espadrilles, Daniel.
C'est un monde un peu particulier.
T'as pas d'espadrilles, tu rentres pas.
C'est pas vraiment ma culture.
Vous êtes les bienvenus.
Mais je sais que je suis bienvenu, bien sûr. Non, je suis plus
l'île d'Oléron, c'est l'île du peuple, tu vois.
L'île d'Oléron.
Daniel et moi, on est un peu au-dessus, si tu veux. Nous,
ouais, non, mais je comprends.
Nous, c'est l'île d'Oléron. Ouais,
ces îles-là, c'est pas, tu vois.
Ouais.
Ça va, quoi.
Je conseille Boyerville. Très sympa.
Oh, l'autre, il est allé. Il a entendu qu'il fallait aller là-bas.
Non, pas du tout.
Ça fait des jeux aussi, non?
C'est la maison de ma belle famille.
Ah, je pensais que Passepartout t'avait invité.
Non.
Perforas.
Tu connais Boyerville?
Pas du tout. Je t'avoue que c'est les endroits que je ne connais pas.
Ouais, c'est très sympa.
Donc je m'abstiens de donner mon avis.
Ouais. Moi, bon. Je connais, mais je ne le donnerai pas.
Après ce long sommaire, bouge pas, Julien. On revient dans moins de 2 minutes avec l'avis de Kevin qui veut absolument qu'on regarde la série sur Arsenal. Je suis sûr que Julien l'a vu, parce que lui, tout ce qui touche Arsenal, il l'a vu.
Bah oui, à la limite, voilà. Il était dedans.
Donc les gars, bougez pas, pause fraîcheur et on revient tout de suite.
RMC, l'After Foot, Gilbert Bribois.
Kevin Diaz est là, Daniel Riolo est là, Julien Laurence également. Je ne vous ai pas signalé les évolutions de score dans les barrages de Ligue des Champions. Tout à l'heure, Karabakh Pilsen 0-0, mais ça vous le savez. Benfica mène toujours 2-0 face au Dynamo Kiev. Le match se joue en Pologne, hein, c'est le match aller, donc c'est Kiev qui, entre guillemets, reçoit, mais évidemment pas sur le territoire ukrainien.
Benfica se balade. Hein.
Oui, et puis
il y a pas de problème, les tours préliminaires.
Bah, Benfica, il passe toujours les tours préliminaires, alors que les clubs français, ils passent jamais.
C'est des clubs qui travaillent bien.
Bon, après, ils passent pas forcément toujours la phase de poule.
Voilà, ils l'ont passé hein, ces derniers temps. Ils l'ont passé deux fois.
Déjà, ils l'ont passé récemment, et honnêtement, déjà, ils sont dans la phase de poule. Déjà, ils y sont, et pour leur économie, c'est bien. Et au vu de leurs moyens, c'est toujours une performance. Et ce que font chaque année, de toute façon, on le répète, Benfica et Porto, c'est juste nous montrer à quel point ils travaillent mieux que nous.
Ils ont fait quart de finale de Ligue des Champions. Hein. Ils ont éliminé l'Ajax. Ils ont été dominés, mais ils ont éliminé l'Ajax.
Bien sûr.
Et puis, il y a un autre match en ce moment entre le Maccabi Haïfa et l'Étoile Rouge de Belgrade. 2-2 après 54 minutes. Une des deux équipes sera en phase de poule de Ligue des Champions, évidemment. Attention, jingle Kevin Diaz.
Est-ce que Messi reste? Est-ce que enfin bref, c'est un chambardium qui est énorme.
Il est beau, celui-là. Un quoi?
Un chambardium.
Un chambardium.
Un chambardium.
Tu voulais dire quoi? Un barnum?
Voilà.
Mélange de chambardement.
De chambardement et barnum.
Tu sais que barnum, c'était du grand spectacle. C'était du cirque très, très grand, haut de gamme. Hein,
barnum, c'était un monsieur au départ. Le premier monsieur barnum.
Bah oui, c'était des cirques. Oui. Des cirques de très grande qualité. Donc je sais pas si l'expression est bien choisie.
Non, mais à la base, je voulais dire un chambardement.
Ah, tu viens.
J'étais entre Chambardement et Barnum. Et voilà, mon cerveau, il a mixé.
Ah, ok, ok.
Alors, on t'écoute. Pourquoi est-ce qu'il faut absolument regarder cette série sur la vie d'Arsenal?
Bon, alors.
Ça s'appelle All or Nothing.
All or Nothing.
C'est une série d'ailleurs, All or Nothing.
C'est
une série.
Ça, c'est la franchise, ouais. C'est voilà, tout franchise. Pareil. All or Nothing, c'est pour tout le monde, voilà.
Voilà. C'est une franchise d'ailleurs qui a débuté avec le football américain. Voilà pourquoi je l'ai découvert assez tôt, qui est excellent.
Donc le principe, c'est à chaque fois, on prend un club et on
voilà,
suit sa
tu
saison.
Tu suis toute la saison. Voilà. Mmh. Tu suis toute la saison, mais vraiment avec des insights.
En immersion, ouais.
Comment? C'est-à-dire que tu suis l'entraîneur.
En immersion, ouais.
Voilà, en immersion totale, tu suis l'entraîneur, tu les vois à l'entraînement, tu les vois dans les vestiaires avant les matchs, après les matchs. Tu suis aussi, ce qui est très intéressant souvent, le directeur général du club ou le manager d'un club, le GM, comme disent les Américains.
Modèle donc, série Sunderland, sauf que celle-là, c'était pas dans le cadre de All or Nothing.
Non, Sunderland, c'était sur Netflix.
Voilà.
Mais moi,
là, c'est Prime. Hein.
Voilà, moi, j'aime beaucoup hein, tous ces formats qui sont comme ça autour du foot, où tu vis. Le premier que j'avais connu, c'était à la Clairefontaine, on s'en rappelle tous, avec Ben Arfa et Diaby, où tu avais suivi comme ça une génération de Clairefontaine, c'était vraiment sympa à suivre. Mais là, avec les clubs professionnels, c'est vrai qu'en France, on n'en a pas beaucoup. En tout cas, moi, j'en connais pas, à part les yeux dans les bleus pour l'équipe de France 98. Mais cette série, pour en revenir.
Attends, juste avant qu'on sache tout. Est-ce que, vous aurez la réponse forcément, est-ce que tout est validé par le club? C'est-à-dire, est-ce que le club a une possibilité d'enlever les images, une sorte de final
ça,
cut
à Julien, je ça, sais pas.
Ou est-ce que le réalisateur, enfin, les journalistes qui font ça, une liberté totale de mettre ce qu'ils veulent au final.
Demande à Julien, je ne sais
non,
pas.
Non, non, ouais, non. Non, il y a un droit de visionnage avant parution de la part du club. Avec
donc le club peut censurer des moments gênants qu'il ne veut pas qu'on voit.
Après, c'est au club de déterminer.
C'est important de le dire, ça.
Oui, oui, non, mais c'est au club de par déterminer exemple, s'ils estiment que même des moments qui pourraient sembler pour un dircom un peu neuneux dérangeants, en fait, ne le sont pas et participent de la qualité.
Exactement.
Du documentaire, enfin du film en l'occurrence, et contribue à faire en sorte qu'on en ait un avis positif, parce qu'on se dit ils n'ont pas cherché
à qu'il les aspérités.
Ils nous ont donné des choses, et effectivement, il faut pas tout prendre premier degré, parce qu'à partir du moment où tu sais que c'est contrôlé, bon bah, mais c'est
tu juste... prends des
attends,
choses.
Julien voulait dire un truc là sur le.
Non, par exemple, il y a une histoire qui résume très bien tout ça. Quand Tottenham accepte de faire donc leur All or Nothing, donc c'était celui de la saison précédente, c'est Pochettino qui est encore l'entraîneur. Lui dit d'accord, je veux bien le faire, mais à une condition pour moi, pas de caméra dans mon bureau. Aucune dans mon bureau et rien chez moi, à la maison, avec ma famille, avec mes enfants. Alors que par exemple, dans le sud d'Arsenal, on voit Arteta chez lui faire son barbecue avec ses enfants, etc.
Et c'est d'ailleurs un des meilleurs moments.
Ouais, Pochettino avait dit lui, moi je veux bien, mais rien de tout ça chez moi.
Voilà.
Quand il se fait virer donc au mois de novembre, que Mourinho arrive, première chose que Mourinho dit, moi je veux 3 caméras dans mon bureau à tel endroit et tel endroit. Donc c'est ça aussi le succès de la série, de documentaire.
Ça dépend de ce que donnent les gens aussi.
Exactement. De bien sûr, et de l'accès que tu peux avoir.
C'est pour ça que bon, il ouais. y en a.
Pochettino, s'il avait fait à Paris, il n'aurait pas demandé la famille puisqu'il était à l'hôtel.
À Paris, il y a pas besoin. Il y a This is Paris.
This is Paris.
Il y a This is Paris.
This is.
Ouais, bon, je peux finir mon avis tranché ou le commencer. Donc, il y avait
une qualité médiocre pour le coup.
C'est
par
clair.
Exemple, en Inside Club, This is Paris, c'est nul quoi.
C'est vrai. Mais même les All or Nothing, hein, si on continue là-dessus, le premier.
De la Juve, il était à chier.
Le premier sur Manchester City, il est pas terrible, franchement, il est moyen.
C'est pas mal. Quoi.
Mais il y a quand même des moments avec
Guardiola. Oui, il y a des moments. Mais vraiment, les deux meilleurs, c'est Tottenham et Arsenal. Parce que la Juve, c'est naze, sa voix, c'est trop contrôlé, on voit rien.
Absolument. Mais le truc, en fait, c'est. À la limite, je demande même pas que de A à Z ce soit nickel, parce que je me doute bien et tout. Mais si déjà au milieu t'arrives à choper 2-3 moments où t'apprends des choses, c'est bien déjà, c'est bien.
Ouais, mais en fait,
alors vas-y, continue.
Dans celui-là,
ton avis.
Ouais, voilà. Dans ce All or Nothing Arsenal, pourquoi c'est vraiment très intéressant, c'est déjà parce que tu te rends compte au final que il faut laisser du temps à un entraîneur. Bon, nous on l'a suivi avec Julien, lui encore de plus près, mais depuis qu'il est arrivé à Arsenal, il a été très critiqué. Et d'ailleurs, tu vois bien qu'au début de la saison dernière, c'est une saison qui est charnière pour lui, parce que pour le coup, c'est All or Nothing, donc c'est tout ou rien. C'est soit il arrive à faire quelque chose, soit il allait être viré assez rapidement dans la saison. Et au milieu de la saison, finalement, l'acte fondateur, Julien, tu m'arrêtes si je me trompe, mais c'est le problème énorme avec Aubameyang, qui vient d'être prolongé, salaire énorme, capitaine du club, il y a un problème de discipline. Arteta se dit voilà, c'est maintenant ou jamais.
Comment je gère ça?
Il faut que il explique d'ailleurs très bien Arteta, parce qu'il y a aussi une caméra dans son bureau, tu le vois, il explique que il faut qu'il se tienne à ses principes, même s'il adore Aubameyang, même s'il lui a apporté beaucoup de choses, il peut pas faire autrement que si c'était un jeune joueur de l'académie ou du centre de formation, et donc il choisit de le couper. Je vais pas tout raconter, mais on connaît l'histoire. Et ensuite, on voit comment le club doit ensuite gérer le problème Aubameyang sur et en dehors du terrain. Et c'est vraiment ça qui est excellent à suivre.
Ce genre de clé, c'est passionnant, parce que pendant une saison, on voit qu'un joueur disparaît alors que c'était un peu la star de l'équipe et qu'on entend qu'un entraîneur prend une sanction. Pourquoi il prend une sanction? Souvent, les gens nous disent « Ouais, mais ça se trouve, vous exagérez, il a pas vraiment fait ça, c'est du mytho de journaliste, c'est ce genre de choses-là. » Donc là, déjà, on voit, bon, il y a eu erreur, il y a sanction. Pourquoi il y a sanction? C'est pour le bien du groupe ou pas? Il y a des entraîneurs qui le font pas. Parce que c'est la star, parce que tu peux pas, parce que t'as pas la liberté. Tous les coachs n'ont pas cette liberté. Et je pense que dans la vie d'Arteta, t'as raison de dire que ça peut être fondateur, parce que ce gars-là, depuis qu'il est arrivé, on a toujours eu le sentiment le message qu'il envoyait, c'est soit vous me laissez du temps pour que je construise mon truc.
Il est un peu tendre, on a l'impression.
Exactement. Que j'enlève les mecs que je vais pas pouvoir manager comme je veux, que je prenne 2-3 mecs qui vont correspondre
comme
à ce que je veux.
Comme Guardiola au final. Ouais, mais exactement. Qui a plus de légitimité.
Exactement. Et Arteta est un fils spirituel de Guardiola. Donc soit, à l'impression, sans arrêt, il envoyait ce message. Me virez pas, sinon, à chaque fois, on va recommencer,
C'est ce qu'il dit. Mais toi qui n'as pas vu, tu verras qu'à un moment, il parle de la casa Pepe. En espagnol, qui est une expression qui dit bon, ici, en gros, c'est la maison où on fait le bordel, on fait ce qu'on veut, et puis si c'est pas moi, ce sera un autre. Il dit mais il y a un moment, il faut que ça change, et donc c'est avec moi que ça va changer, en parlant du cas Aubameyang, etc. Et c'est pour ça que quand tu vois la construction d'un groupe, la difficulté du métier d'entraîneur, il en parle aussi. Voilà, c'est qu'un humain, il faut aller avec les critiques, et il faut se lever le matin, il faut trouver la motivation, même si c'est quelqu'un qui a l'air ultra motivé et ultra professionnel. Mais franchement, Gilbert, c'est ce matériel-là, pour un passionné de foot, pour un consultant, pour un futur entraîneur, pour un joueur, pour un ancien joueur. Mais c'est exceptionnel. Tu apprends tellement, tu vois le mec de l'intérieur, tu vois quelle est la difficulté de ce métier, tu vois même le mea culpa de certains fans qui, entre le début et le milieu de la saison, il reste encore des épisodes à venir. On voit le retournement que nous, on a connu en tant que consultant. On commentait les matchs, on voyait l'équipe d'Arsenal évoluer. Et au final, même si on sait les résultats, moi, je me rappelle pas de, tu vois, Julien, je me rappelle pas de tous les résultats qu'a fait Arsenal le mercredi soir, le samedi soir. Et j'espère qu'ils vont gagner, en fait. Parce que t'as envie que Arteta réussisse son pari. On voit qu'il a pris énormément de pression avec ce cas Aubameyang, avec les transferts, et au final, eh ben, aujourd'hui on sait qu'il est entre guillemets en train de réussir son pari, ou on lui souhaite. Et c'est ça qui est excellent.
Dans la même chose sur le PSG ou dans le This is Paris, là dès le début de la saison, t'aurais déjà plein de choses à raconter. T'aurais dit bon, alors attends, Neymar, t'as mis deux buts, bah, c'est bon, tu peux aller à Barcelone jouer le.
Alors soir, attends, on va élargir le débat, mais sur celui d'Arsenal là, est-ce que Julien, toi, t'as appris des trucs, toi qui suis le club au quotidien là?
Non, pas vraiment, mais c'est vrai que pour les gens qui suivent pas forcément trop, qui n'ont pas le même accès que nous on a, par exemple, que moi j'ai ici, c'est vrai que tu découvres des personnages. Alors Arteta, c'est la grande star, bien sûr, tout est bâti autour de lui, il est au cœur du documentaire, et à juste titre, de toute façon, parce que c'est aussi une équipe qui manque de superstars, de stars mondiales, donc forcément c'est plus basé sur lui. Après, tu découvres par exemple quelqu'un comme Carlos Cuesta, qui est son jeune adjoint, qui est en charge du développement individuel des joueurs, qui a 27 ans, qui est un Espagnol très talentueux, qui parle 5-6 langues, je crois. Et parfois, tu le vois s'asseoir avec un Nuno Tavares, par exemple. Nuno, lui, de façon très candide, finalement, lui avoue que oui, quand il fait une erreur dans un match, il n'arrive pas à se l'enlever de la tête. Il fait que de ressasser cette erreur, même pendant la rencontre en lui-même. Donc, tu as vraiment des passages comme ça qui sont super intéressants, et tu découvres des nouveaux personnages.
Il parle aussi, Julien, du fait que c'était dur pour lui d'arriver du Portugal, si jeune, comme ça. Arteta dit aussi sur Nuno Tavares, c'est intéressant pour les supporters marseillais, il dit à un de ses adjoints, il faut aller le chercher parce que j'ai l'impression qu'il parle pas beaucoup, il a le regard un peu fuyant. C'est super intéressant de découvrir ça sur un joueur.
Ouais, et puis alors il y a une autre histoire très marrante, on va pas tout raconter pour ceux qui ont pas tout vu, mais à un moment Alexandre Lacazette il a un meeting avec une réunion avec un des adjoints, un autre adjoint Steve Round d'Arteta et pour regarder un petit peu sa finition et ce qu'il fait devant le but. Et donc le gars il s'assoit avec Laca et lui dit, il lui montre un clip vidéo de Karim Benzema, comme si Lacazette il avait jamais entendu parler de Karim Benzema en fait. Il s'assoit et dit tu connais ce joueur? Et donc Laca il regarde, il dit ouais. Et puis en plus, il y a bien un joueur qui connaît bien Karim Benzema, c'est Alexandre Lacazette quand même. Donc voilà, il y a des choses vraiment marrantes, vraiment intéressantes. Moi, Kevin, je veux toujours plus d'insight, plus de tactique à l'intérieur, plus d'images dans la cantine, dans les vestiaires et tout ça. Et donc parfois, je suis un peu frustré, mais non, c'est quand même c'est vraiment un très très bon documentaire. Même si vous n'êtes pas supporter d'Arsenal, pour comprendre un petit peu le fonctionnement d'une équipe, le fonctionnement d'un club, parce qu'on voit aussi beaucoup Edu, oui, le directeur sportif, on voit Vina et le président du club, enfin en tout cas le CEO, celui qui dirige le club, le PDG, tout ça. Donc c'est vrai que pour comprendre un fonctionnement d'un club pareil, c'est vrai que c'est vachement intéressant. Il y a plein de choses à picorer.
Je reviens sur ce que la conclusion de ton avis, c'était en gros, c'est la mise en valeur du travail du coach.
Bien sûr, c'est la
mise en valeur. Qui t'a le plus plu en fait.
Bien sûr, c'est la mise en valeur du travail du coach, de son staff, comme dit Julien, le développement personnel. On voit aussi beaucoup le docteur, hein, Julien, je sais pas comment il s'appelle, le docteur et toute la cellule médicale, comment ça se passe. Quand un joueur est blessé, on a Ramsdale qui est le gardien, et j'en parlais pour Eric Thénard, et d'ailleurs Peter Boss a essayé de le faire aussi à Lyon et aussi Sampaoli. Ils ont très très vite compris que le gardien Bert Leno, qui est un excellent gardien, ne passerait pas dans le style de jeu Guardiola, qu'il fallait un mec qui était meilleur avec le pied, qui ait plus de personnalité. Et lui par exemple, il a jamais été blessé. Comment gérer aussi son mental, comment il va faire pour être sur le côté. Et donc tout ça, c'est vraiment aujourd'hui ce que tu dois connaître quand t'es analyste de foot, ou quand tu fais une formation d'entraîneur, ou quand t'es un joueur. Même les joueurs, ils doivent apprendre beaucoup. Et on sait en plus qu'Arsenal en France, on le sait nous sur RMC Sport, c'est peut-être la plus grosse communauté de supporters avec l'histoire et les franchises, Thierry Henry, alors, Robert Pires, etc.
Max est là au 32-16, il est supporter d'Arsenal. Max, bonsoir.
Salut les gars.
Bonsoir, Max. Bon, toi, je pense que t'as pas besoin d'être convaincu par Kevin pour regarder la saison de ton club en coulisses.
Non. Mais alors en plus, justement, je voulais rebondir sur un truc, Gilbert, c'est que All or Nothing, moi, j'avais déjà regardé tous les épisodes sur la NFL. Et d'ailleurs, c'est pas un hasard, en parlant de ça, juste une petite anecdote, c'est pas un hasard que Arsenal ait accepté de le faire, parce qu'en fait, le propriétaire d'Arsenal, Stan Kroenke, c'est aussi le propriétaire des Los Angeles Rams, anciennement St. Louis Rams, et il y a un épisode de All or Nothing sur les Rams, justement. Ouais,
et il y a deux Hard Knocks aussi sur les Rams, donc ils aiment ça, les Inside. Hard Knocks, qui est la même chose, mais de HBO, qui suit en général la préparation d'un club.
Oui, c'est plus la préparation de ça, Hard Knocks, Kevin, exactement. Mais oui, non, Gilbert, absolument. Mais, et alors moi, en fait, il y a quelque chose, justement, vous parliez de ce que ça procure aux supporters de découvrir tout ça, et c'est vrai que moi il y a quelque chose que j'ai évidemment, je suis devenu supporter d'Arsenal depuis Arsène Wenger, Thierry Henry, qui était mon joueur préféré, etc., donc toute cette époque là et moi donc j'ai lu l'autobiographie d'Arsène Wenger, et après avoir lu l'autobiographie d'Arsène Wenger et en regardant maintenant ce All or Nothing sur Arsenal, en fait je vois des similitudes, c'est-à-dire que je vois tout comme Arsène avait une vision. Je vois qu'Arteta a aussi ce côté-là, il a une vision, il a une manière de fonctionner qui est complètement dans l'ADN d'Arsenal, dans la manière de travailler, etc. Et justement, le fait de découvrir tout ça, ça ne fait que conforter quelque chose qu'on pressentait en tant que supporter, finalement, en regardant les matchs, en voyant l'évolution. C'est-à-dire à la fois le fait d'être satisfait qu'on lui ait donné du temps, on comprend au cours de la série que ça a été le bon choix, et puis aussi de se rendre compte que voilà, c'est quelqu'un qui veut s'inscrire sur long terme, comme Arsène a pu le faire avant à Arsenal, et ça donne de l'espoir que Arteta puisse rester encore un moment, continuer d'imposer sa vision et sa manière de travailler au club, et que le club puisse revenir, et il est en train de revenir sur les devants.
Et pourquoi il faut laisser du temps à des entraîneurs, en tout cas comme Arteta, c'est qu'à un moment ils ont 3 jours de libre. Et donc un de ses adjoints lui dit qu'est-ce que tu vas faire, tu vas te reposer. Il dit non, je vais étudier. On est déjà au mois de mars, hein, je vais étudier tous mes joueurs. Il dit mais comment ça? Je vais passer 15 heures sur chaque joueur, je veux connaître tout, je vais regarder leurs entraînements, je vais regarder leurs matchs.
Ah bon, j'aurais conseillé de te reposer un peu quand même.
Non mais tu vois que le mec est complètement possédé par son truc. Et ça.
Alors les gens trop possédés par leur truc, moi ça me, excuse-moi, mais ça me fait un peu peur, moi.
Ouais, mais comment tu veux reprocher après un mec?
Je trouve pas ça forcément positif.
Non, mais après il le fait peut-être pas tout le temps parce qu'on le voit aussi passer du temps avec sa famille, mais je veux dire.
Non, mais il y a des entraîneurs qui sont obsessionnels.
Voilà. Et c'est un peu ça, si tu veux réussir, il faut travailler.
Lui, assurément, il fait partie du groupe des coachs obsessionnels.
Ouais, mais je pense que c'est que comme ça que tu peux y arriver, même si bien sûr t'as besoin de soupapes, t'as besoin de moments où tu vas. Où...
Alors, juste, je vous coupe parce qu'il y a la finale du 110 mètres au championnat d'Europe d'athlétisme, avec trois Français
en finale.
Et Martino Lagarde, sosie officiel de Ronaldinho, qui est là,
qui est favori.
Mmh. Le jeune Zoya, qui est l'homme qui monte, et puis un troisième.
Il démarre un peu bizarre, là,
Français, et pour l'instant, on a.
Voilà, c'est bon, là, ça va faire.
Martino Lagarde, avec un Espagnol à la lutte pour le titre de champion d'Europe. Et on aura un Français troisième, et Zoya est tombé. Voilà.
C'est l'Espagnol qui passe, je pense.
Martino deuxième, troisième français, je sais plus son nom, et Zoya est tombé. Donc, je sais juste que le prénom de ce deuxième athlète est Juste, comme Juste Leblanc.
Exactement.
Je n'ai plus son nom, je suis désolé. Dans le feu de l'action. Donc, ou peut-être il y a photo finish là.
Non, il n'y a pas photo finish.
On va avoir Aurélien Tirsain, il est sur place
Martinez,
avec nous dans quelques instants.
Il a mis la tête avant.
Il s'appelle Martinez, le vainqueur.
Ouais, c'est lui, je suis sûr que c'est lui.
Donc, médaille d'argent et médaille de bronze pour.
Des lunettes, en tout cas, Martino.
Aurélien Tirsain est là, Aurélien.
Oui, salut Gilbert, salut à tous. Et malheureusement, dans le même centième, Pascal Martino Lagarde va devoir se contenter de la médaille d'argent a priori derrière l'Espagnol Asier Martinez, champion d'Europe, donc pour la première fois de sa jeune carrière à 23 ans en 13 secondes 14, donc un très bon chrono, c'est le meilleur chrono européen de la saison, et Pascal Martino Lagarde qui est vraiment juste derrière. Alors pour l'instant, il y a la
troisième,
photo
le français, comment il s'appelle?
Juste Kouamaté, ouais, le gamin, Juste Kouamaté, ça aussi c'est fantastique.
Il a une attitude
parce que
dingue là quand il est arrivé, j'aimais beaucoup son attitude.
13-33, deux Français sur le podium. Alors c'est pas encore le triplé de Prague sur 60 mètres haies en 2015, mais la France confirme que c'est une nation leader sur les haies. Juste Kouamaté qui a 21 ans, qui découvre le très haut niveau international, demi-finaliste au Mondiaux d'Eugene il y a 3 semaines, et là il confirme, et malheureusement Sacha Zoya qui termine au-delà de la 5ème place, donc 6ème, non même 7ème pour Sacha Zoya, malheureusement un chrono très loin dans les 13-70. Il a été gêné dans le couloir d'à côté avec des haies touchées dans le même dernier Sacha Zoya, finalement le temps est, il est tombé,
il l'a pas vu, il est tombé.
Je l'ai pas vu parce que j'étais sur Pascal Martino Lagarde et je voyais le chrono défiler, s'effiler, et Martino Lagarde qui pour l'instant est vraiment en médaille d'argent, donc derrière Asier Martinez, deux Français en tout cas sur le podium du 110 mètres haies, troisième et quatrième médaille pour la délégation française après celle de bronze de Jules Pommery à la longueur et ce soir celle de bronze de Jean-Marc Ponviane au triple saut.
Ça marche, merci Aurélien, bonne soirée. Je remercie Max également au 32-16 qui a regardé donc le doc sur Arsenal. On va continuer le débat là-dessus parce que finalement on se rend compte, et c'est une des leçons aussi de ces docs, que ça sert plutôt les clubs que ça ne les dessert.
Bien sûr que oui.
C'est donc un message lancé aux clubs français qui pour l'instant freinent tous quasiment des cas de fer pour ce genre de format. On va en reparler.
Je pense que dans le deal.
Attends, faut faire une pub, Daniel.
Ah, ok.
On continue le débat là-dessus. Julien reste avec nous parce qu'il va également nous dire ce qu'il pense de la future vente éventuelle d'Arsenal. La famille Radcliffe. De Manchester United. Jim Radcliffe s'est à nouveau positionné, ce qui risque à nouveau de vexer les Niçois. À tout de suite.
RMC, 20h30,
l'After Foot, Gilbert Bribois. 22h33, Daniel Riolo est là, Kevin Diaz est là, Julien Laurence est là. On continue de débattre de la pertinence de ces docs inside et qui nous montrent la vie des clubs a posteriori sur la fin de la saison. Alors, on a pris l'exemple d'Arsenal, très intéressant, mais on peut élargir un peu le débat. On va le faire dans quelques secondes. Je vous signale juste les scores pour vous dire que le Maccabi Haïfa mène désormais 3-2 face à l'Étoile Rouge et toujours 2-0 pour Benfica face au Dynamo Kiev. Deuxième but de Gilberto, excellent joueur que je vous recommande, joueur de latéral de Benfica. Il marque souvent. En France, les clubs sont rétifs à ce genre de format, alors qu'on le disait juste avant la pub, on se rend compte que finalement il en ressort plus de positif pour l'image du club que de négatif. Et en plus c'est contrôlé, donc les trucs vraiment gênants, les clubs peuvent les enlever, peuvent demander. Alors, moi, j'ai même allé plus loin, Daniel. En fait, finalement, les clubs, mais quelque part, ils nous doivent ça. Je veux dire, qui finance les clubs? C'est les télés.
Alors, justement.
C'est les télés qui financent les clubs. Ils devraient. Moi, Vincent Labrune, s'il nous écoute, et il nous écoute, tu devrais mettre dans les cahiers des charges obligation de laisser les caméras entrer et à la fin de la saison, tu offres à tes supporters ta saison. Ça fait partie du deal.
Alors, c'est pas exactement comme ça que ça va se passer, mais ce que j'étais en train de te dire avant la pub, c'est que dans le deal que CVC a passé avec la Ligue, les parts que CVC a pris, à un moment, il faut quand même que ce soit rentable. Donc, il va y avoir un pôle média qui sera créé. Et évidemment que ce genre de production vont arriver en France parce que CVC va ensuite toucher là-dessus sur les opérateurs qui les diffuseront, Prime, Netflix ou j'en sais rien, ou Canal ou je sais pas.
RMC Sport.
Mais il va y en avoir. Des produits de ce genre-là, il va y en avoir exactement comme il y en a en Angleterre depuis des années. Nous, on a beaucoup de retard dans ce domaine. Mais il va y avoir dorénavant énormément de produits. La qualité de ces produits, je n'en sais rien, parce que c'est la Ligue qui décidera quels seront ceux qui vont les fabriquer. Comme c'est un homme qui avait beaucoup de relations dans les médias et qui en a encore.
Oui, il connaît des boîtes de prod, Vincent Labrune.
Je pense qu'il choisira des amis.
Amis.
Hein, et qu'ils feront un truc. Et savoir si ce sera bien ou pas bien, ça, j'en sais rien. Toujours est-il que ça va arriver. Ça, c'est certain, parce que CVC, il va bien falloir qu'à un moment... Il touche de l'oseille de quelque part.
Mais ce qui est fou dans ces docs, c'est un peu pareil pour celui sur la Formule 1, c'est que quand tu apprécies un personnage, quand tu apprécies un joueur, un entraîneur, voire un club comme Sunderland, mais moi aujourd'hui, à chaque fois que je regarde la Ligue 1 ou les divisions inférieures anglaises, je regarde qu'est-ce qu'a fait Sunderland. Et pourtant, c'était il y a 3 ans. Et donc, je veux dire, il y a un moment, ça crée un lien avec cette équipe.
Et là, tu suis encore Sunderland aujourd'hui.
Mais bien sûr. Enfin, voilà. Je ne vais pas dire que je regarde les matchs de Sunderland, mais déjà, moi, j'étais intéressé par le travail d'Arteta, le très bon recrutement de cet été, que tu comprends encore mieux parce qu'ils ont assaini les comptes en se débarrassant de la casette, en ayant un effectif très court sur les 6 derniers mois. Et là, cette année, j'ai envie de voir qu'est-ce que ça va donner. Comme j'ai suivi particulièrement le Tottenham de Mourinho après avoir vu. Et avoir vu une autre facette.
Si tu regardais plus souvent This is Paris, bah peut-être que voilà.
Non mais bon, tu vois aussi. This is Paris, malheureusement, c'est comme ce qui s'est passé avec la Juve. C'est que de la com. Et à partir du moment où c'est que de la com, bah c'est pas intéressant.
On voudrait voir qui. Oui, Julien, vas-y avant qu'on parle.
Déjà, avant que tu parles des clubs français, il y a des clubs qui veulent pas ouvrir leurs portes et
même en Angleterre.
Même en Angleterre.
Je pense que Manchester ils veulent pas, Julien.
Bah, sinon, ils l'auraient déjà. Tu vois, United, ils ont dû demander United avant City, avant Arsenal et avant Tottenham. Pareil avec Chelsea et pareil avec Liverpool. Donc, il y a une raison pour ces trois-là ont sûrement dû refuser. Sinon, ils l'auraient déjà fait. Ce qui est intéressant aussi, c'est que City, par exemple, sur la saison qui vient de s'écouler, là, la saison où ils ont été champions, ont fait leur propre All or Nothing à eux, avec leur propre production à eux, avec leur caméra à l'intérieur. Et l'avantage que ça a, et aussi, c'est ça le truc.
Les yeux dans les bleus 1 et 2, quoi.
Si exactement, produit, sauf que interne, si c'est bien fait.
Et puis voilà.
Oui, sauf que si c'est bien fait, ça peut être aussi assez équivalent à ce que Amazon a pu faire, Prime a pu faire avec City et avec les autres. Et puis aussi, il y a des clubs qu'Amazon ne veut pas faire. Et c'est normal aussi que quand tu dépenses entre 10 et 15 millions d'euros, quand tu donnes cet argent-là à un club pour que ce club t'ouvre ses portes pour ce documentaire-là, t'as intérêt à ce que ce soit un club qui intéresse les gens et deux, en espérant qu'il s'y passe des choses. Parce que si c'est une saison ennuyeuse où il se passe rien,
évidemment, dans ce genre de produits à terme, c'est ce qui est en train de se passer avec Drive to Survive, la F1,
ouais.
C'est qu'au bout de la 3e saison, les ficelles sont devenues trop grosses, les mises en scène, le montage sont devenus trop gros et on s'est un peu détourné de ça. Certains pilotes ont fait la gueule, comme Verstappen qui ne veut plus y être. Au début, d'ailleurs, on se souvient comment c'était passé. Tu avais Ferrari, McLaren, Ferrari et Mercedes. qui voulaient pas être dedans. Puis ils ont été dedans. Ils voulaient pas se montrer. Finalement, ils se sont aperçus que ça avait fait du bien à la discipline, donc ils ont tous voulu y aller. Et au bout de la 3e saison, c'est un peu parti dans quelque chose de trop préfabriqué.
Mais là, c'est pas donc, pareil parce que c'est toujours
risque,
un club
c'est
différent.
C'est le risque toujours.
Comme c'est toujours un club différent.
Mais il peut y avoir le risque à partir où tu veux contrôler quand tu veux. Parce que toi, tu es en train de parler. Là, on en est au début. C'est le 3e maintenant. Mais s'il y en a 4, 5 ou que ça revient à Arsenal, machin.
Non, là, c'est le 4e.
Après, les joueurs peuvent être au courant. L'entraîneur peut jouer un petit peu la comédie. Il peut cabotiner sur une ou deux scènes.
Ah oui, non, mais c'est sûr.
On peut à terme arriver à ce genre de risque-là. C'est-à-dire. On est prêt à céder sur l'indépendance parce que ça, ce serait génial si c'est un travail journalistique totalement neutre, avec peut-être un droit de regard, une sorte de final cut, pourquoi pas. Là, à partir du moment où c'est produit en interne ou produit par une boîte qui a des liens commerciaux avec la Ligue, forcément, tu peux douter de l'indépendance.
De toute façon, la Ligue ou les clubs doivent le savoir. Si ça manque d'authenticité, l'audience le verra et ça marchera pas.
Mais une nouvelle fois, la schizophrénie des acteurs du sport. Tu vis des télés, tu demandes de la visibilité, mais en même temps, tu fermes tout parce que tu comprends.
Mais de toute façon,
vous avez rien compris, les dirigeants de club qui veulent pas. Vous n'avez rien compris.
C'est une question de compétence. Est-ce que tu es sûr de toi ou pas? Pourquoi Mourinho ouvre son bureau?
Parce qu'il assume sa personnalité.
Parce qu'il assume. Il sait ce qu'il est.
Il cabotine devant les caméras.
Lui est un acteur.
C'est un acteur. Oui, mais entraîneur aujourd'hui, c'est un acteur.
Oui, mais justement, c'est là où il faut faire attention. Parce que après, est-ce que ça va conduire les clubs à, par exemple, à terme, savoir qu'il y a ce genre de série-là. Ah bah tiens, je vais prendre tel entraîneur, parce que je sais que dans le produit, ça meilleure que tel autre entraîneur. Ce qui est d'ailleurs le cas aujourd'hui, avant même de savoir s'il y a des films qui vont être faits. Aujourd'hui, on sait que le rôle de la communication est tellement important pour un entraîneur, pour un vestiaire même, parce que les joueurs font même attention à ça, que des fois, le président, il est plus influencé par la qualité de communicant, de la façon dont il va se comporter, que uniquement sur ses qualités footballistiques. Et d'ailleurs, c'est des entraîneurs français comme Bruno Genesio développe là-dessus des idées intéressantes. Claude Puel en avait parlé également dans une très longue interview à France Foot il y a au moins 2-3 ans, en disant à quel point les entraîneurs français avaient beaucoup pris de retard. Et si c'était moins vendu, c'est parce que aussi, d'un point de vue de la communication, il n'était pas bon. Oui, mais il n'était pas bon, il ne donnait pas. Et pourquoi si nous, à chaque fois,
là, tu parles de communication externe. Mais en général, quelqu'un qui n'est pas bon en communication externe, il n'est pas beaucoup meilleur en communication interne.
Il va pas se transformer. Mais qu'est-ce qui a changé dans les années récentes dans notre championnat, quand sont arrivés les entraîneurs étrangers? On adorait, remontons à 2014, même si la personnalité dérangeait, les confs de Bielsa. Parce que quelque part il y avait un peu d'acting chez lui à son corps défendant, mais il parlait, il racontait des
Bielsa
trucs.
C'était le schizo à l'envers, c'est-à-dire que lui il parlait beaucoup, mais il était avait peur de parler, mais il le faisait quand même.
Mais il y avait une personnalité. la même chose avec Sampaoli l'année dernière, les confs on adorait. Et à partir du moment où t'aimes les confs, où le journaliste est content, le supporter voit qu'il y a un échange et dit tiens le coach parle à moi à travers les gens qui vont à la conf, on se rend compte à quel point le rôle de la communication est de plus en plus important. Et la communication, c'est aussi à terme ce genre de film-là. Et il faudra toujours regarder en se méfiant un petit peu et en essayant de déceler à quel moment ils essayent de nous berner et de nous prendre pour des gogos.
Moi, je le dis, les clubs doivent maintenant ce genre de format à leurs supporters. Que ce soit Lorient, Metz ou PSG.
Même au-delà de ça, je m'en plaignais il y a un an ou deux, quand tu veux vendre ton produit, Julien le sait mieux que nous, les produits qu'ils ont en Angleterre, autour de la Ligue, j'en ai parlé mille fois, Ian Wright et un autre ex-gunner qui se mettent à une table dans un salon et qui décryptent des saisons passées en discutant. C'est formidable. Mais aussi peut-être parce que les joueurs sont intelligents et sont d'un autre niveau, j'en sais rien. Et le fameux Carragher-Neville, j'en ai parlé mille fois. Moi, j'adorais regarder, comment ça s'appelait, In the Box, là, je sais plus comment ça s'appelait ce programme. Bon, il décryptait des vieux matchs, regardez, je me suis imaginé, tiens, deux joueurs français, un de l'OM, un de Lyon, j'en sais rien, tu sais, il regarde un vieux match, il le décrypte. Ça, c'est des produits qui valorisent ton championnat, qui valorisent ton produit. Et là-dessus, on a énormément de retard. Ça, c'est vrai.
Bon, en France, vous auriez là, par exemple, sur cette saison là, si je vous disais allez, choisissez-moi trois clubs, on fait un all or nothing sur la saison qui vient.
Moi, pour moi, déjà l'OM, parce que Daniel va sûrement en parler, mais il y a quand même.
Bon, Paris semble incontournable parce que là, déjà rien que moi,
Marseille et Lyon.
Tu veux voir ce qui se passe au PSG? Évidemment,
bien sûr, Paris et Lyon
en priorité, c'est PLM. Paris, Lyon, Marseille, évidemment.
Bien sûr. PLM.
Ouais, mais après, parfois, il peut y avoir des surprises. Hein,
ce qui peut
ailleurs.
Être intéressant, ce qui
après, Lens, ça peut être intéressant.
Moi, Nice, excusez-moi, Nice peut m'intéresser.
Peut intéressant,
Favre, clubs, personnage de dingue, Delors,
Radcliffe. Un peu moins médiatique, où justement, tu vas vivre avec eux et il y aura une forme d'authenticité. Par exemple, moi, un Toulouse, le travail du coach avec Comolli, la façon dont ils analysent les trucs, j'aimerais beaucoup, par exemple.
Non, mais là,
je pense que
Toulouse pourrait
donner un très. Oui, d'accord, mais ça pourrait donner un bon résultat.
Mais pour exemple, le All or Nothing Strasbourg, vous pouvez venir chez moi pour voir un match.
Il y a beaucoup de supporters, tu sais. Hein.
Et oui.
Il y a beaucoup de supporters qui parlent aussi, qui sont suivis et tout ça.
D'ailleurs, c'est très sympa de voir les supporters qui disent bon, j'avoue qu'au bout de deux matchs, j'ai demandé sa démission et maintenant je me rends compte que je me suis trompé. Mais voilà.
Mais d'ailleurs, dans le premier du genre, Sunderland, enfin, qu'on a connu nous, les mecs un peu les plus attachants, c'était les supporters. Il y avait deux, trois papis qui étaient là depuis 40 ans.
Et là, tu vois la culture. Eux étaient au centre du documentaire.
Mais Nice de Vieira, il y avait eu des séquences inside. Voilà, exactement. C'est très intéressant.
Vu qu'on a fait les plus intéressants, est-ce qu'on peut faire les plus chiants? Parce que moi j'en ai un qui serait pas mal chiant, c'est All or Nothing Brest avec Der Zakarian.
Moi je dirais, moi j'aime bien Michel Der Zakarian.
Non, mais peut-être qu'en privé,
la communication externe, elle est compliquée.
C'est vrai, mais voilà.
Spontanément, t'as pas envie de le voir. Non,
c'est vrai.
Avec Pascal Duprat. Saint-Etienne avec Pascal Duprat.
Ah bah là, lui, c'est acting 100%.
Mais d'ailleurs, je crois qu'ils avaient fait.
Tu pourrais avoir des bonnes surprises, hein. Si on regarde 3 par exemple, 3 tu pourrais dire bon 3, mais en fait si les joueurs sont vraiment contre Irles et sont
capter quelques
scènes où ils disent mais t'es qu'une pipe et tout ça, t'es bidon, je sais pas, après c'est ça bon, en fait,
mais tu vas montrer ce qu'il t'offre. C'est vrai, sauf si le mec s'est fait virer entre temps à la fin de la saison, peut-être bon vas-y laissez-le ça.
Bon, Julien, est-ce que tu veux rester avec nous pour parler de Tanguy Kouassi? Je pense que ton avis sera intéressant.
Oui, avec plaisir.
Si tu veux bien, on se retrouve dans moins de 2 minutes. Donc, All or Nothing, voilà, hein, regardez-le si vous ne l'avez pas vu sur Prime. Comme ça, vous ferez chacun votre idée. Et dans quelques instants, nous, on parle de la trajectoire du jeune Tanguy Kouassi avant de parler ensuite de l'OM. À tout de suite.
RMC jusqu'à minuit.
L'After Foot. Gilbert Bribois.
Il est 22h47, Kevin Diaz est là, Daniel Riolo est là, et Julien Laurence est resté avec nous. Pas mal de réactions sur notre sujet, là, sur ces insides. La Doud nous rappelle qu'il y a eu un inside sur Lens, sur l'équipe 21, qui avait été à l'époque produit par notre ancien patron François Pesanti, qui était pas mal, c'est vrai, on l'a pas cité. Et puis j'ai Odus qui nous dit, quand on voit déjà que le PSG a interdit à Paganelli d'aller discuter sur le banc après l'arrivée de QSI, donc c'est vrai. Après, certains clubs interdisent l'accès aux...
une grosse perte.
Après, il aurait parlé en quelle langue?
Ah oui, peut-être.
Et de quoi, surtout?
Et puis, oui, pour conclure sur Arsenal, quand même, Julien, est-ce que tu penses que cette saison sera d'une autre qualité que la saison dernière?
En tout cas, elle a bien commencé, déjà. Elle est prometteuse dans ce qu'on a vu dans le jeu, ce qu'on pu apporter pour l'instant les nouvelles recrues, comme Gabriel Jesus, par exemple, qui a été fantastique contre Leicester samedi. Zinchenko, qui est pour moi l'un des transferts de l'été, tellement il apporte et il a un QI football extraordinaire. Et donc, c'est vrai, on n'a pas encore vu un Fabio Vieira, par exemple. Il y a encore.
C'est qui le joueur dont tu as parlé avant?
Zinchenko de Manchester City.
Non mais je sais pas, mais quand on faisait les chapeaux et tout, je disais c'est un super joueur, j'adore et tout. Vous me l'avez tous bâché.
Non, je l'ai pas tous bâché. Je sais pas s'il est dans les meilleurs latéraux du monde, arrière gauche du monde. Tu vois, chapeau 1 ou 2.
Pour moi, les chapeaux.
Mais c'est vrai qu'en tout cas, il est
un super joueur. Il est intelligent, il peut jouer à plusieurs postes en plus.
C'est vrai, mais défensivement, tu sens que c'est un ancien joueur offensif. Ça se sent parce qu'il a des manquements défensifs.
Bah, comme avec beaucoup de latéraux dans l'histoire, hein, tout à fait. La plupart.
D'ailleurs, celui qu'ils ont acheté, le Gomez qu'ils ont acheté à Anderlecht pour le remplacer, c'est un numéro 10 aussi, et ce sera la même chose. Mais ça plaît à Pep, donc c'est pas un problème. Mais donc je pense que ça peut être une très belle saison. On sent Arteta, et on l'a vu pour finir là-dessus, on le voit dans le documentaire, qu'il a des idées très précises sur ce qu'il veut dans le jeu et dans l'attitude de son groupe. Et donc c'est vrai que pour l'instant c'est bien parti. Il y a que Arsenal et City qui ont gagné pour l'instant leurs deux premiers matchs de championnat, donc c'est vrai que c'est plutôt encourageant.
Allez, ça peut faire le top 4. Le comeback en Ligue des Champions.
La quatrième place, je pense qu'elle peut être pour eux. Ouais.
Ah, ça y est, le rêve est revenu chez Julien. Arsenal en Ligue des Champions, on vient tous deux jours à l'île de Ré.
Ah bah juste avant de parler de Kouassi quand même, qu'est-ce que tu peux nous dire ce soir de l'info qui fait état d'une vente éventuelle de Manchester United? Les Glazers seraient prêts à vendre à près de 6 milliards d'euros. Et là, évidemment, qu'est-ce qui ressort? Ineos, qui serait intéressé. Comme ils étaient
alors, c'est pas une vente totale. C'est pas une vente totale. C'est une vente de parts minoritaires dans le club.
Pour 6 milliards, t'as même pas la totalité du club.
Non. Mais ils sont prêts à ouvrir un petit peu le capital et donc à vendre quelques actions pour un investisseur. Ce qui est pas nouveau. Même avant la crise du début de saison, même avant la saison pourrie de la saison dernière, ils avaient déjà cette idée-là en tête, tout simplement pour récupérer un peu d'oseille. Comme de toute façon, il faut le rappeler, c'est la poule aux œufs d'or pour eux. Manchester United, c'est tout ce que ça représente. Ça représente rien d'autre. C'est juste un autre business pour faire de l'argent, le plus d'argent possible. Et donc d'avoir un autre investisseur minoritaire qui viendrait et qui, par exemple, mettrait 1 milliard pour 15% des parts du club, ça les intéresse forcément puisque ça fait 1 milliard dans leur poche. En revanche, pour la vente totale, Là, on n'en est pas encore là. D'ailleurs, Radcliffe, dès qu'il a entendu parler de cette ouverture possible de capital, enfin en tout cas d'un investisseur minoritaire au club, lui s'est porté candidat, puisqu'on sait que c'est un supporter à la base de Manchester United, hein, quand il a voulu racheter Chelsea. Là, d'ailleurs, un des problèmes que ça avait causé, c'est que tout le monde lui avait dit « Attends, pourquoi tu veux acheter Chelsea alors que c'est pas du tout ton club, que tu es supporter de Manchester United, depuis toujours, depuis qu'il est tout petit. » Donc c'est vrai que lui s'est porté candidat tout de suite via un porte-parole qui connaît très bien le journaliste du Times, Matt Dickinson, qui a écrit l'article, qui a sorti l'info, et ensuite le porte-parole de Radcliffe a dit: et si un jour les Glazers veulent vendre donc toute leur part à eux du club, là ils seraient prêts à venir et là à mettre carrément les 6 milliards d'euros pour tout racheter.
D'accord.
Mais aujourd'hui la vente totale n'est pas d'actualité.
Bon, très bien.
Les Glazers qui sont aussi propriétaires, on le disait tout à l'heure pour les Cronkies, mais d'une franchise de NFL, les Tampa Bay Buccaneers.
Ouais, je me demande jusqu'à quand ils estimeront qu'ils s'y retrouvent, les Glazers.
Tant que ça vendra des maillots. Hein.
Mais là, ça commence à.
C'est quelque part ma question, rapporter. Kevin.
Ou alors, enfin, vendre des maillots, ça, c'est un clicheton.
Voilà, en plus.
Oui, t'as compris, quoi. Oui. Business, tant que le business tente.
Vendre des maillots par rapport à ce qu'ils dépensent, c'est rien du tout. Hein. C'est autant dire que c'est.
Je pense qu'ils s'y retrouvent quand même.
Ah bah ils prennent des dividendes tous les ans, hein. Ils prennent en moyenne 20 millions.
Même c'est pas la vente de maillots qui fait le chiffre d'affaires du club.
Non.
Vu les pertes, 20 millions les transferts, dividendes. Tout ce qu'ils ramassent comme banane en dépenses, je veux bien qu'ils ramassent des dividendes tout le temps, mais j'aimerais vraiment les connaître.
20 millions italiens.
Ah non, mais c'est 20 millions en moyenne, 20 millions par an depuis qu'ils ont racheté le club. Donc ils prennent pour mettre dans leur compte en banque à eux.
Avec tout ce qu'ils achètent et tout ce qu'ils dépensent en masse salariale et en transfert raté.
Ah, mais ça, c'est de l'argent qui est. C'est pas leur argent. Eux, ils n'ont jamais mis un centime dans le club.
En gros, ils n'ont pas de raison de faire améliorer la situation sportive du club s'ils rentrent 20 millions par an. On va dire que, je ne sais pas, moi, briller plus en Ligue des Champions ou y être ou ne pas y être. De toute façon, en Angleterre, de toute façon, tu touches des droits télé qui sont colossaux, donc tout va bien pour toi. Visiblement, en Asie, United continue d'être populaire. Là-bas, il y a des coins où quand on développe le football, j'ai l'impression que les gens se foutent même de savoir les résultats. En fait, tu développes le truc, tu développes le joueur, tu achètes le maillot du joueur et tout, en fait, mais tu sais combien ils sont classés, ils sont bons ou pas? Oh non, on n'en sait rien. Bon, c'est le nouveau football.
Sauf que City a du succès, Daniel, c'est pas 20 millions qu'ils prendraient, ce serait 50. Donc forcément, pour eux, il faut que si les résultats s'améliorent, s'il y a des trophées qui reviennent, s'ils sont en Ligue des Champions régulièrement, etc., s'il y a plus d'argent dans le club encore, pour eux, c'est toujours bénéfique. Forcément. Et puis je pense qu'ils commencent à en avoir un petit peu marre aussi de se faire insulter partout dès qu'ils vont au stade, etc. C'est pas bon pour leur business, c'est pas bon pour leur image non
je
plus
suis
en
d'accord.
tant que famille Glazer.
Je suis d'accord, il y a une limite à ça, c'est pour ça que je disais. Jusqu'à quand ils vont accepter que cette situation se détériore à ce point? Parce que là, on a le sentiment que Manchester United, qui a connu dans son histoire des périodes très très creuses, hein, et très longues où il ne faisait plus
rien.
Bien sûr. Mais dans le football actuel, où c'est beaucoup de l'économie, des parts de marché et tout ça, ils sont en train, ils dégringolent toujours plus, quoi.
Allez, passons à Tanguy Kouassi, les gars. Donc Kouassi à Séville, c'est fait. Info du jour de notre nouveau fin limier Fabrice Hawkins. Qui nous fait savoir que le transfert est de 20 millions d'euros, contrat de 5 ans. Il aura le numéro 14, tout ça est précis. Mais la question, finalement, est plus fondamentale sur le parcours de ce joueur. On se rappelle quand il est parti du PSG, il y a eu de nombreuses polémiques et de débats. Ouais, le PSG, ils ne savent pas garder leurs jeunes. Kouassi, il aurait peut-être fallu le garder pour lui donner sa chance. Lui, il dit, ouais, mais moi j'ai le Bayern, pareil, je ne suis pas sûr de jouer. Au Bayern, on m'a fait des promesses. Moralité, au Bayern, il n'a quasiment pas joué. Et il se retrouve maintenant à Séville pour remplacer Koundé. Donc, il sera titulaire à Séville.
Non, moi, je ne sais pas comment tu peux affirmer qu'il sera titulaire.
Ouais,
j'en sais rien.
Ça.
Alors, c'est le priori.
En tout cas, qui part pour être titulaire.
Et voilà, on peut considérer ça.
Il n'y a aucun joueur qui part pour être titulaire, non. Surtout quand c'est un mec qui a zéro expérience au haut niveau. Arrêtez de me faire croire ça. Je ne dis pas qu'il ne le sera pas. Je dis, vous ne pouvez pas affirmer qu'il le sera.
Disons, quand on part recrute, pour l'être. On dit qu'on te prend pour être titulaire, clairement.
Ouais.
Ok, bah.
Après, est-ce que tu l'es ou pas? C'est autre chose.
Non, mais la question est la suivante, au fond. La trajectoire de Kouassi vous la voyez comment aujourd'hui? Vous vous dites attention, il est passé à côté de quelque chose ou finalement
il est passé à côté de quoi? Il a assez vie. Voilà. C'est peut-être justement la preuve que c'était plus un joueur.
Ça fait beaucoup débat parmi les fans de foot.
C'était peut-être plus un joueur pour un club du calibre de Séville que pour une équipe type PSG ou Bayern Munich. C'est pas les mêmes chapeaux en termes d'exigence et d'attente.
Mais c'est,
donc peut-être qu'il est jeune et qu'il va il va devoir aller faire quelques années à Séville avant d'envisager s'il est bon, parce que personne ne sait s'il est bon. C'est quand même, vous me faites rire, vous dites il y va pour
le Bayern, il ne recrute pas si t'es mauvais quand même. Mais,
okay, le mec n'a jamais joué.
Si, mais attends, mais les mecs, même si il avait fait quelques matchs, c'est, je sais pas exactement combien.
C'est la première fois, Kevin, qu'on verrait un mec qu'on a dit devenir très fort, qui fait pas sa carrière.
Mais attends, Daniel.
On a plus souvent vu ça que le contraire. Moi, je suis Saint Thomas. Moi, d'abord, il me montre qu'il est bon. Je dis pas qu'il est pas bon. Je dis, je ne sais pas.
Je te dis pas qu'il y a une différence entre être un très bon joueur et être un bon joueur à son âge. C'est quelqu'un qui est dans le groupe du Paris Saint-Germain, un des plus grands clubs du monde. Si t'as les pieds carrés, normalement, t'es pas dans le groupe du Paris Saint-Germain. Ensuite, il est dans le groupe, il joue, il a fait quelques matchs.
Mais pareil, des pieds carrés au PSG, je peux t'en citer, hein.
Mais Daniel, sur les cinq dernières années, des jeunes qui ont joué au club, qui ont les pieds carrés, il y en a pas des, c'est pas la majorité quand même. Tu peux pas me dire que Kalimuendo, on peut penser qu'il a pas le niveau peut-être pour être titulaire au Paris Saint-Germain, mais c'est un bon joueur de foot. Donc si t'es dans l'équipe, dans la rotation, même si tu joues que quelques bouts de match, t'as des qualités. Dina et Bimbe, etc.
Je ne sais pas quel niveau il aura.
On ne sait pas quel niveau il aura.
Mais quand il aurait joué plus avec le Bayern aussi. Hein.
Voilà, mais quand le Bayern te recrute, c'est parce qu'ils ont vu des qualités, ils ont été voir des matchs de réserve.
Pourquoi le Bayern hein?
Mais ils font un pari, ça leur coûte rien à leur échelle. Ça leur coûte rien de prendre un joueur qui est libre, sur lequel ils vont parier. Pour eux, c'est des cacahuètes de prendre un jeune joueur du PSG. Ils sont même capables de mettre 25 millions sur un mec de 16 ans du Stade Rennais. Donc, un mec gratuit au PSG, c'est pour eux, c'est un pari.
Qu'est-ce qui s'est passé? Ils l'ont pas trouvé assez bon?
Ils l'ont vu à l'entraînement. Ah oui. Je crois qu'il s'est blessé au début quand même. Après, ils l'ont vu à l'entraînement. Est-ce qu'il a été bon? Est-ce qu'il s'est adapté? Est-ce qu'il a appris la langue?
S'ils avaient pensé que c'était un crack, ils le gardaient.
Non, mais bien sûr. Bien sûr. Après, derrière, il y a l'opportunité.
Là-dessus, on est au moins d'accord.
Derrière, oui, mais il a fait quand même quelques matchs en fin de saison dernière. Ensuite, il y a l'opportunité Matthijs de Ligt.
Okay.
Je te donne un exemple. Il y a l'opportunité Matthijs de Ligt. Tu prends Matthijs de Ligt. Du coup, ça ferme la porte pour un Tanguy Kouassi, quoi qu'il arrive, peu importe le temps que tu lui prévois.
Ça veut dire qu'ils estiment.
Non, mais tu peux pas comparer Matthijs de Ligt qui vient de 5 saisons au niveau avec Tanguy Kouassi qui vient d'arriver.
Alors, trajectoire positive ou pas, Julien, pour toi?
Moi, je pense qu'il est parti un petit. Tôt. Je sais pas s'il a été très bien conseillé. S'il avait eu le niveau, il aurait joué au Bayern. Il serait peut-être pas allé chercher un Upamecano. De Ligt, c'est peut-être un petit peu différent, mais il serait peut-être pas allé chercher Upamecano non plus. Ce que je trouve intéressant, c'est que dans ce contrat-là à Séville, il y a quand même une clause de rachat pour le Bayern.
Oui, tout à fait.
C'est-à-dire qu'ils sont pas complètement idiots. Ça veut dire que s'ils brillent avec Séville, ils seront les premiers à venir le rechercher et il reviendra au Bayern. Et là, il sera plus expérimenté, il sera meilleur et il pourra jouer. Donc, je pense qu'ils savent très bien qu'il est talentueux et qu'à un moment, c'est quand même compliqué, de se faire une place au Bayern Munich aussi. Donc, voilà. Mais moi, j'ai pas envie qu'il ait perdu deux saisons. Et on verra. Daniel a raison. On sait pas encore s'il va s'imposer à Séville, s'il va s'imposer en Liga, s'il va avoir les qualités pour. Bien sûr que sur le papier, normalement, ça devrait le faire. À côté de lui, il aura quand même Karim Rekik au départ, hein, parce que c'est Rekik qui jouera à côté de lui ou Goudel, mais c'est un des deux. Donc il faudra aussi qu'il s'adapte à tout ça. Après, on verra. Mais même si t'as appris pendant deux ans, même si t'as appris pendant Karim Rekik et Goudel, qui étaient les deux titulaires en championnat quand ils ont perdu le week-end dernier, mais même si t'as beaucoup appris en t'entraînant avec Thomas Müller, avec Hernandez, avec tous ces joueurs-là au Bayern, d'accord. Mais t'as quand même aussi perdu ton temps. Pendant deux ans, t'as pas beaucoup joué. T'as joué avec la réserve et c'est tout, quoi. Et donc, je pense que c'est mitigé.
On progresse, hein.
T'aurais pas plus joué au PSG, au final.
Ah, je sais pas ça.
Non, ça, je pense pas.
Je sais pas.
Ça, pour le coup, vu les
joueurs. Julien, merci beaucoup.
Salut, Julien.
Merci, les gars.
Et à très vite pour l'actu anglaise et le reste, évidemment, ensemble. Voilà pourquoi si, on va voir s'il joue les prochains matchs, bien sûr, et s'il est titulaire ou pas. Dans un instant, c'est l'OM qui est au programme, plus l'actu mercato du jour, puisqu'il faut qu'on fasse un petit point, là. Hein. On est à la mi-août, et il est temps de prendre un peu de hauteur et d'analyser ce que font Longoria, Tudor et les autres. C'est tout de suite supporter de l'OM, on vous attend au 32-16 et puis les deux résultats définitifs en barrage aller de Ligue des Champions. Benfica a définitivement battu le Dynamo Kiev 2-0, le Maccabi Haïfa a battu l'Étoile Rouge de Belgrade 3-2 avec un doublé du joueur haïtien Pierrot. Tu connais celui-là? Ancien de Guingamp.
Bah oui, son nom me dit quelque chose en tout cas.
Voilà. Franski Pierrot. Deux buts.
Et bah bravo.
Jeune haïtien. Allez, à tout de suite dans l'after.
L'After Foot.
20h minuit sur RMC.